Europe 1.
10h, 11h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Vous avez demandé un cocktail de cinéma. Ne bougez pas, on s'occupe de tout. C'est parti pour Clap.
Sans alcool, bien sûr.
Évidemment. Hein, tout au long de l'été, nous vous proposons de nous replonger dans les films cultes liés aux grandes thématiques des vacances d'été. Cette semaine, ce sera les vacances en famille ou encore entre amis. Si je vous dis les petits mouchoirs ou la boule des pins, oui, nous passerons en revue les meilleurs films en première partie de l'émission. Didier Allouche se remémorera pour nous des souvenirs forts des Oscars dans son JT d'Hollywood de l'été. Claude Lelouch et Laila Bechti évoqueront les films de leur vie. Enfin, messieurs Diabolo Menthe et Diabolo Fraise, Victor Bonnefoy et Paul Bayer.
Je vais être Diabolo Fraise.
Ça vous va
en même
trop
temps,
bien.
Non, c'est trop tôt pour l'apéro.
C'est trop tôt pour le spritz. Là, on est au Diabolo. Et vous nous parlerez, les garçons, des films à voir ce week-end au cinéma, à savoir...
Comme par exemple le nouveau film de Pierre Salvadori, La Petite Bande.
D'accord.
Ou le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, avec Denis Ménochet et Marina Foïs. C'est un must-see absolu.
Et ça, ce sera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 10h, 11h, Clap.
Something just changed in your song. Tell me, baby, what's wrong?
Quelle musique somptueuse. Yodelis, bande originale des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, le film de potes de référence pour ouvrir notre thématique de la semaine, les vacances en famille ou entre amis. Vous êtes toujours avec moi les garçons ?
Ah oui, on est toujours là, moi j'adore Les Petits Mouchoirs, c'est mon film de droite préféré. C'est vraiment ça, c'est que des jeunes bourgeois déconnectés de la réalité qui partent dans leur maison de vacances avec leurs petits problèmes et non, qui vont
attends,
se taper dessus.
Attends,
et alors
attends,
il faut voir
attends,
la suite,
attends.
La suite, la suite, comment elle s'appelle déjà ?
Nous finirons ensemble.
Oui, c'est encore des titres à rallonge avec trois petits points à la fin parce qu'il n'y avait plus de place pour mettre le texte.
Si vous étiez en train de vous réveiller en douceur parce que peut-être qu'hier vous avez fait la fête, peut-être que vous êtes en vacances. Victor, bonne voix.
Ah mais moi, il y a ma scène préférée de cinéma direct. Avec cette Australie culture qui dit et tes copains, tu y as pensé un peu à tes copains. Et moi j'y pense tous les jours à mes copains, sache-le.
Le procès du film bourgeois, c'est complètement stupide, Victor. La plupart des comédies sont tournées dans des appartements haussmanniens de 250 mètres carrés.
Bah oui,
et on
ne
reproche
problème.
Pas ça. On va reprocher à Dabadi d'avoir écrit Nous irons tous au paradis, par exemple. Ça aussi, c'était un film bourgeois.
Mais non, mais attends, à ce moment-là, on va parler après de Salvador. On va parler après d'autres films qui sont justement moins bourgeois, tu verras.
Attendez, je ne comprends pas. Expliquez-moi, nous ne sommes pas en dernière partie d'émission. On n'est pas là pour critiquer.
On est là pour passer un bon moment. Copains.
On est là pour expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire écouter la musique des Petits Mouchoirs, qui pour nous, hein, on est d'accord Franck,
oui.
Est un film de référence quand on pense aux films de potes.
Bah, évidemment, des potes en vacances, certes, c'est dans une région où la moindre villa coûte excessivement cher, comme l'aura noté notre syndicaliste Victor Bonnefoy en face. Ok, mais je te rappelle que le moindre studio
c'est
à la Grande Motte coûte 3000 balles la semaine.
Mais on s'en fout.
Mais j'ai pas de studio
film.
À la Grande Motte.
J'en peux plus.
Mais moi aussi, j'aime bien les Petits Mouchoirs. Mais moi aussi j'aime bien le film.
Ah bah alors voilà, mais fallait commencer.
Mais j'ai dit que c'était mon film de droite préféré.
Allez, on écoute un extrait pour la peine.
Un accent pour des serviettes ?
Je sais pas, tu fais comme tu veux, moi j'en ai pris une. En même temps on va faire du bateau, donc il y a de l'eau, tout bon.
Et bien chez toi, hein, Jean-Louis.
Il
hein
y a un mec que je connais qui est descendu en bagnole de Paris pour me voir.
Bonsoir.
Et voilà, il va dormir où là ?
Dans son cul. Pardon.
Marion Cotillard, Gilles Lelouch, François Cluzet, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Jean Dujardin, Pascal Arbillot et j'en passe. C'est drôle, c'est triste et surtout terriblement génial. Et finalement, la conclusion, hein, si vous l'avez compris, on a finalement tous aimé. On a tous dit des choses différentes, mais pour dire la même chose à la fin. Un autre film où cette fois il est question de famille, plusieurs familles qui se retrouvent le long de l'Atlantique, c'est La Baule les Pins, comédie dramatique qui sent bon les années 90 avec un gros casting, hein, lui aussi ce film. Nathalie Baye, Richard Berry, Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon. Le divorce plane sur les vacances et ça pèse sur les enfants.
Bon, une niche réglisse.
C'est pas un peu trop de soucis, de petites pisseuses comme ça en même temps? Vous êtes jeune? C'est pas un défaut, enfin, à votre âge, on préfère faire autre chose.
Mais moi, j'ai deux enfants.
Non.
Deux garçons.
Et où ils sont?
En nourrice, chez ma grand-mère. Ah. Je peux pas faire autrement, vous pensez bien.
Et le père, il s'en occupe pas?
Il y en a pas de père. Il n'a jamais eu.
Franck Vallière.
Et c'est bien parce que c'est vraiment la plage chaleureuse et encore une fois, les problèmes qui sont là et qui sont sous-jacents. Après, moi, je préfère un tantinet l'hôtel de la plage, par exemple, qui est au moins 15 ans plus tôt, de Michel Lang, avec Myriam Boyer, Daniel Secaldi, Guy Marchand, Sophie Barjac, qui racontait...
Qui se passe en Bretagne.
Voilà. Alors, oui, c'était pas le même cadre.
Mais, pardon.
Mais qui était beaucoup plus... qui était avant le drame du divorce, par exemple. Voilà, où chacun... prenez le temps d'avoir des amours aux infidèles, côtoie bien les hommes que les femmes, et puis les enfants devenaient un petit peu des adultes. Il y avait des coming of age dans ce film qui était absolument splendide.
Hôtel, hôtel. Il m'a toujours mon glitch. Il est super cool, tu trouves pas? Bonjour mon petit Cyril, ça va? Au fait, c'était intéressant, moi, ce que vous avez vu.
C'est la meilleure affaire de l'Ouest, c'est Catherine qui me l'a dit, hein, Catherine?
Ouais. Ah,
j'avais oublié la musique de Sheila en c'est intro génial. Et en sortie Mort Schumann, Un été de porcelaine. Ah, c'était très beau, une belle époque.
Alors justement Franck, je vais vous laisser la parole puisqu'on va parler du cultissime film de 1969 de Jacques Deray, avec une musique de Michel Legrand et un acteur incroyable, Alain Delon, et une actrice
Ils sont tous beaux.
Somptueuse, Romy Schneider. Le tout à Ramatuelle, dans le sud de la France, ça donne effectivement la piscine.
Et il faut citer aussi Maurice René et Jane Birkin,
Jane Birkin.
Tu es bien?
Ça ne se voit pas. Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Je n'en demande pas plus.
Pourquoi tu leur as dit de rester, alors?
Mais je pensais te faire plaisir. C'est ton ami, après tout, beaucoup plus que le mien.
Ouais, pourtant, dis que toi et Harry...
Qui te l'a dit?
Un peu tout le monde.
Et Franck, vous êtes un fan inconditionnel.
Bah, c'est le film qui symbolise l'été. Il y a tout. L'amour, les traîtrises, c'est des vacances entre potes, mais aussi des vacances en famille, puisque Jane Birkin est la fille de Maurice René dans le film. On n'ira pas jusqu'au bout de l'histoire pour ceux qui auraient la chance de ne pas l'avoir vu. Il faut absolument que vous voyez ce film. Alors, Romy Schneider se faisant badiner les fesses par Alain Delon avec une branche d'olivier, ça peut paraître ridicule comme ça, mais quand c'est eux deux qui le font, c'est absolument splendide.
Je suis ravi que ces émissions de l'été permettent à Franck de dévoiler une partie de ses fantasmes. Vraiment, ça, je trouve ça très très beau ce qui est en train de se passer là.
Et vous savez qu'on on a eu chaud parce que ça a failli quand même être un autre réalisateur. Je l'ai appris, il y a un bouquin que je vous conseille qui est trouvable partout en France ou que vous soyez sur votre lieu de vacances, qui s'appelle sobrement La Piscine, signé de Luc Lariba, qui a consacré un bouquin entier à la fabrication de ce film. Et on a, dans ce livre, j'ai quand même appris que Georges Lautner devait réaliser La Piscine à la place de Jacques Deray.
Ah oui, ça aurait fait quelque chose de différent.
Un truc de jobard.
Victor, vous l'avez vu, La Piscine?
Non.
Ah,
oui.
Ah ouais?
Mais oui.
Ah mais il faut que tu vois ça.
Voilà.
Non mais vous savez, moi je suis né au milieu des années 90.
Ah ça y est.
Mais c'est génial de se dire qu'on a des chefs-d'œuvre comme ça à rattraper.
Mais évidemment, mais j'ai encore plein de choses à rattraper et je les rattraperai à vos côtés.
Oh là là, c'est beau
mais
ça
oui.
Victor, vous avez un autre coup de cœur sur les films de vacances entre potes ou en famille?
Coup de cœur, pas nécessairement, mais c'est important de le rappeler quand même parce qu'il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est Old de Monsieur M. Night Shyamalan, le maître du mystère, qui nous a quand même emmené des familles et des amis sur une plage. Mais sur cette plage, attention, il y a un maléfice et les gens vieillissent prématurément en une journée.
Oh là là,
on peut prendre 30 à 40 ans.
Ah oui.
Une femme qui est enceinte le matin se retrouve avec son enfant qui a déjà 25 ans le soir. C'est terrible.
Les ravages du Morito.
Et c'est surtout adapté d'une très 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 très, vous voyez que je mets beaucoup de superlatifs, bonne bande dessinée qui, alors voilà, Night Shyamalan a eu besoin de changer la fin, c'est pas forcément utile. Voyez le film et surtout lisez la BD, c'est formidable.
Alors c'est drôle, il y a quelques semaines, on parlait du film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, où là c'est une trappe qui fait rajeunir.
Tout à fait.
Là c'est l'inverse, on vieillit. Et moi je préfère le Quentin Dupieux.
Ouais.
Enfin, dans la logique,
oui,
de
bah
rajeunir,
oui.
Tant qu'à faire.
Je peux parler d'un de mes films cultes, moi.
Oui, mais on n'a pas non plus
non,
toute la vie.
C'est Emmanuel.
Très bien, d'accord.
Allez-y, Franck.
Quoi de neuf, Bob, de Franck Oz. Et alors, il faut voir ce film. Imaginez Bill Murray, un type vraiment névrosé qui voit son psy partir en vacances, c'est Richard Dreyfuss, et qui va le suivre pendant ses vacances. Et le pire va arriver, c'est-à-dire qu'il va devenir pote avec sa femme, ses enfants. Et c'est un monument de la comédie.
Très bien, très bien, on prend note. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de revoir certains films. Nous, on retrouve notre meilleur ami Didier Allouche, celui avec qui on partira en vacances sans hésiter, surtout celui dont on adore écouter les souvenirs de la cérémonie des Oscars. C'est parti.
Salut Laurie, salut à tous. Cette semaine, dans notre série des grands moments des Oscars, à la première personne, la belle histoire de Marion et de sa môme à Hollywood. L'album, rebaptisé La vie en rose en traversant l'Atlantique, a démarré sa carrière stratosphérique en Amérique il y a bientôt 15 ans, le 16 avril 2007, en ouverture de Kolkoa, le festival de films français de Los Angeles. Le film y rencontre un véritable triomphe. La légende veut que c'est à la suite de cette projection que le distributeur américain voit le potentiel Oscar pour Marion Cotillard et engage l'actrice dans une véritable campagne. SAG Award, Critic Choice Awards, déjeuner chez le consul, festival de Palm Springs, de Santa Barbara, déjeuner dénommé, soirée hommage au château Marmont. C'est bien simple, Marion était partout pendant la saison des prix, d'où une question qu'on n'oserait probablement plus lui poser aujourd'hui.
On vous voit partout, c'est un marathon, c'est le Marionton.
Je n'appellerais pas ça comme ça, mais c'est vrai que c'est la façon dont ça se passe ici. C'est une bonne expérience.
Le 24 février 2008, Marion arrive sur le tapis rouge des Oscars aux environs de 16h15. 3 heures plus tard, elle vivra ce qui reste encore le plus beau moment de sa carrière hollywoodienne.
And the Oscar goes to... Marion Cotillard.
Un bonheur rare, ponctué par des mots qui résonnent encore sur Hollywood Boulevard.
Thank you, life. Thank you, love. And it is true, there is some angels in this city. Thank you so, so much.
Merci l'amour, merci la vie. C'est vrai qu'il y a des anges dans cette ville, des anges qui n'ont jamais cessé de veiller sur la magnifique carrière de Marion Cotillard.
Merci beaucoup Didier Allouche. Dans un instant, Claude Lelouch et Laila Bekti nous diront tout sur les films de leur vie. A tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver pour vos émissions de l'été en compagnie de Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Toute la saison, nous avons eu des invités prestigieux et surtout, nous avons eu l'occasion de nous replonger dans les films de leur vie. Et bien pour cet été, nous avons décidé de condenser le meilleur. Tout de suite, voici Claude Lelouch. Claude Lelouch, c'est un bonheur de vous avoir à mes côtés et c'est un bonheur de pouvoir vous interroger sur les films de votre vie. Déjà, j'aimerais connaître votre premier souvenir de grande émotion au cinéma.
Alors écoutez, mon père a acheté une caméra pour filmer ma naissance. C'était un cinéaste amateur, voilà, donc c'était une caméra Kodak. Et donc la première personne que j'ai vue sur un écran, c'est moi. On m'appelait Coco à l'époque, d'ailleurs, voilà, mes enfants, mes petits-enfants m'appellent toujours Coco. Et donc j'ai vu Coco à 6 mois, les premiers pas de Coco, donc la première vedette que j'ai vue, c'était moi.
C'est vous.
Voilà, donc je suis désolé, donc ça, ça a évidemment massacré mon ego, quoi.
Votre meilleur souvenir de cinéma?
Écoutez, mon meilleur souvenir, ça reste Quand passent les cigognes. Quand passent les cigognes, c'est un film russe de Mikhail Kalatozov. En 1957, je faisais un reportage à Moscou et j'ai eu la chance de passer une journée sur le plateau de ce film, qui est un film magique.
Palme d'or à Cannes.
Palme d'or à Cannes. Et c'est ce jour-là, en assistant au tournage de ce film, j'avais 20 ans à l'époque, que j'ai dit, voilà, je serai metteur en scène. Voilà,
c'est ce film qui vous a donné envie de faire
voilà,
du cinéma.
C'est ce film qui a fait de moi, j'étais reporter au départ, et qui a fait de moi un metteur en scène. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire, parce que c'est ce jour-là que je me suis dit, qui est l'acteur principal du film? La caméra ou l'acteur? Parce que la caméra faisait monter le long d'un escalier et suivait un acteur, comme ça. Et donc ce jour-là, j'ai dit, effectivement, c'est la caméra, l'acteur principal, puisqu'il tourne dans tous les films, elle est dans tous les plans, et en plus c'est un acteur invisible. Voilà. Donc me suis donné beaucoup de mal pour comprendre tout ce qu'on pouvait faire avec une caméra. Et c'est quand j'ai bien dominé cette caméra que j'ai pu commencer à la marier avec tous les acteurs que j'ai eu la chance de croiser.
Et donc votre caméra reste votre meilleur acteur?
Oui, 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 parce que c'est un acteur qui joue dans tous les plans.
C'est vrai.
Elle a joué dans tous les plans et dans tous les films. Donc c'est l'acteur vraiment principal de l'histoire du cinéma. Sans elle, pas de film.
C'est vrai. Votre séance de cinéma la plus dingue?
Alors, c'est Le propre de l'homme, mon premier film. J'ai 22 ans, je présente mon premier film à la Cinémathèque française. Donc je me dis, tiens, à 22 ans, je rentre à la Cinémathèque française. Et puis le film a été sifflé pendant une heure et demie. Ça a été un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Le film a été sifflé. Mon père et ma mère étaient dans la salle. Je les ai vus pleurer. Et mon père est mort quelques jours après d'un infarctus. Et je pense qu'il ne s'est pas remis de cette séance de cinéma. Donc ça reste le moment le plus terrible que j'ai jamais vécu parce que j'ai le sentiment que mon premier film a tué mon père. La seule personne qui m'a remonté le moral après, c'est le projectionniste.
C'est vrai.
Qui, en me rendant les bobines, m'a dit « S'ils vont siffler pendant une heure et demie, c'est que vous faites partie des grands. »
Et il n'avait pas tort.
Écoutez,
combien de films on a vu être sifflés à Cannes ou ailleurs ?
Je ne remercierai jamais assez ce projectionniste dont je ne me souviens pas du nom. Parce que j'étais pas...
J'ai pris ça comme un
cachet d'aspirine. Voilà. Mais c'est vrai que ça restera le plus mauvais souvenir de ma vie.
Et finalement, peut-être que ça vous a donné aussi encore plus la rage de faire une belle carrière derrière.
Je pense que ce film m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je lui dois, et finalement, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'un critique a dit « Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler ». Voilà, donc ça m'a donné sûrement la pêche.
Le film à regarder entre potes.
Bah, écoutez, Amadeus. Milos Forman, qui a été un grand ami avec qui j'ai grandi. On avait pratiquement le même âge. On était ensemble aux Oscars, lui avec Les Amours d'une blonde, moi avec un homme et une femme. Donc c'est un homme que j'aime. Et c'est vrai que c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Amadeus est un chef-d'œuvre absolu. Et voilà, donc il faut le regarder avec des potes parce qu'on peut parler. Et on dit regarde, 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 écoute, regarde.
Que Votre Majesté garde la partition, je l'ai déjà dans ma tête.
Quoi ? Après une seule écoute ?
Je crois que oui, sire. Oui.
Voyons cela.
Il y a un petit défaut, là. Avez-vous essayé ? Ce ne serait pas un peu mieux si... Ou ça ? Ça ? Oui. C'est mieux ? Qu'en dites-vous ?
8 Oscars.
Et oui, non, mais c'est normal. C'est un film magique. Et puis, il y a Mozart.
Ce que j'allais dire, il y a aussi la musique qui a été très importante tout au long de votre carrière.
Oui.
Il y a tout dans ce
film.
Plus
que ça, parce que la musique, c'est le langage du divin. C'est le langage de Dieu. Je veux dire que dès que les gens écoutent de la musique, on voit bien qu'ils décollent et qu'ils sont dans une autre dimension. Je veux dire, vous regardez 10 000 personnes à un concert qui chantent, qui dansent, qui tapent dans les mains. Prenez les mêmes à un discours politique, vous allez voir la différence.
C'est l'actualité. Le film qui vous fait retomber en enfance ?
Eh bien, écoutez, Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle a le même âge que moi. On a tous les deux le même âge, on est nés tous les deux en 1937, donc elle m'a accompagné. Et puis comme j'ai 7 enfants, donc je suis allé 7 fois revoir Blanche-Neige avec mes enfants. Et comme j'ai 8 petits-enfants, je l'ai revue 8 fois encore. Et c'est vrai que c'est magique. C'est magique, la musique, ce que ça raconte, c'est cruel, hein.
C'est cruel.
C'est terrible.
J'ai essayé de le lire à ma fille qui a 3 ans et en le revoyant et en le relisant, je me suis dit c'est quand même hyper cruel.
Oui, mais en même temps, ça nous montre ce qui nous attend. Je veux dire, c'est une métaphore parfaite de ce qui attend et en même temps, il y a les animaux qui sont là. Il y a tout. C'est magnifique, Blanche-Neige. C'est vrai, j'ai le même âge que Blanche-Neige, mais elle a mieux vieilli que moi.
Le film qui vous fait tomber amoureux de son acteur ou de son actrice ?
Bah, Viviane Leigh dans Autant n'emporte le vent. Moi, j'ai vu ce film à La Libération à Paris en 1945. Donc, je ne suis pas bien vieux, vous voyez. Et puis, d'un seul coup, quand on voit Viviane Leigh, on se dit... Ben, voilà, c'est... Alors, jusque-là, je voulais épouser ma mère. Et puis, quand j'ai vu Viviane Leigh dans Autant n'emporte le vent, j'ai trompé ma mère. Et je lui ai dit, écoute, c'est Viviane Leigh qu'il faut que j'épouse et que je prenne dans mes bras.
Elle est tellement belle dans ce film, cette histoire d'amour, ce duo avec Clark Gable.
Oui, et puis c'est une femme moderne. Hein. C'est une femme qui est déjà... Elle sait ce qu'elle veut. Moi, j'ai toujours pensé que les femmes étaient des hommes réussis. Et c'est vrai que c'est elle la patronne dans le film. C'est elle qui distribue les cartes. Voilà, donc elle est très, très en avance sur son temps.
Votre comédie romantique préférée ?
Bah, Pretty Woman. Julia Roberts, c'est ma Viviane Leigh d'aujourd'hui. Pretty Woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I know.
Et le film que vous avez le plus vu ?
Alors, le film que j'ai le plus vu, bah, écoute, évidemment, c'est Chantons sous la pluie, parce que à chaque fois, j'ai un coup de blues. C'est ce film que je vois. Je veux dire, là, à chaque fois que je ne vais pas bien, le premier médicament, c'est la musique. Et tout de suite après, Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie parce que ça parle à toutes les générations. C'est joyeux, c'est positif. Et puis, ça raconte l'histoire du cinéma. Ça raconte la grande histoire du cinéma quand il est passé du muet au parlant. Et puis, Gene Kelly, Daniel Auk... Enfin, je veux dire, tous les acteurs du film sont... Non, c'est le film que je vois chaque année.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Je crois que c'est le film qui est le plus souvent cité dans cette émission. Oui, je crois que ça fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma.
Non, moi je pense que c'est la plus grande comédie musicale. Et vous savez, la comédie musicale, c'est l'aristocratie de ce métier. Il n'y a rien de plus dur à faire qu'une comédie musicale quand elle est réussie. Il n'y a rien de plus facile quand c'est naze. Voilà. Mais c'est vrai que... Non, je crois qu'on n'a rien fait de mieux que... Bon, et après, il y a West Side Story, bien sûr, qui a joué un rôle important.
Qui est votre bande originale de film préféré.
Oui.
Bon, ça, c'est cadeau. C'est pour que ça vous reste en tête toute la journée.
Oui, et puis il faut remercier Spielberg.
Oui, vous l'avez vu, sa version.
Qui a eu le courage incroyable de s'attaquer à un chef-d'œuvre et qui a réussi son coup. Voilà, donc ça nous permet de réécouter encore une fois la musique et de redécouvrir cette histoire intemporelle. Non, chapeau, Steven.
Une réplique culte.
Dans Les Tontons Flingueurs, quand ils sont en train de se saouler la gueule et que l'un d'eux dit « il n'y a pas que de la pomme ». Voilà, je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas que de la pomme.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça ne serait pas des fois de la betterave. Hein ?
Si, il y en a aussi.
Ça s'entend, hein ? Pour terminer, quel serait le titre du film de votre vie ?
Merci la vie.
Qui est un film qui existe.
Merci la vie qui existe. C'est un film de Blier. Voilà, et j'ai été jaloux de ce titre parce que tous mes films auraient pu s'appeler Merci la vie.
Ne bougez pas dans un instant, on va réécouter Laila Bekti qui répond au questionnaire des films de sa vie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, clap.
Merci d'être avec nous, c'est Clap qui continue. Pour cet été, nous avons condensé le meilleur des réponses de nos invités au questionnaire des films de leur vie. Tout de suite, voici Laila Bekti. Votre première grande émotion au cinéma ?
Alors j'en parle souvent, je parle souvent j'en parle souvent parce qu'en même temps,
c'est vrai.
Voilà. Le truc, c'est que ma première émotion au cinéma, ça a été pour La Strada. C'était un film de Fellini, ouais. Enfin, c'est toujours un film de Fellini. Giulietta Massina, donc l'actrice principale de ce film, me bouleverse. Et voilà, je raconte souvent cette anecdote, mais quand j'étais allée voir La Strada avec l'école, et quand je suis rentrée à la maison, ma mère m'a dit « Alors, c'était bien ?» Et je lui dis « C'était super, la dame, elle parlait avec les yeux. » Et puis je me suis rendu compte 10 ans plus tard qu'en fait, c'était une grande actrice. Et c'est vrai que Giulietta Massina, ça a été... Et maintenant, si je parlais de ma plus grosse émotion... Ça a été quand j'ai vu L'Incompris de Comencini. Ça a été un... Je sais pas si je le reverrai encore, ce film.
Film sur l'enfance.
Ouais, mais c'est des pleurs qui font du bien. Je pense que ça m'a parlé à un endroit, je sais pas lequel, et c'est pas grave. Mais en tout cas...
Vous aviez quel âge, vous en souvenez ?
Ah non, je l'ai vu il y a peut-être 10 ans. Mais c'est vrai que c'était... Je pense que c'est l'une de mes plus grosses émotions au cinéma. Ouais.
Votre séance de cinéma la plus dingue ?
Alors, il y a une petite anecdote assez drôle. J'ai eu la chance d'être jury à Un Certain Regard au Festival de Cannes il y a quelques années. Et Thierry Frémaux, donc le directeur du Festival de Cannes, me connaît un peu et sait que je peux être dans l'affect et que je suis très expressive quand j'aime et quand j'aime pas aussi. Et du coup, on a fait une sorte de réunion qui fait avec le jury, et il nous a dit « Le jury assiste aux projections des films, et il y aura les équipes, donc évidemment, quand vous regardez le film, quand la lumière se rallume, vous applaudissez, vous repartez, mais vous ne montrez pas si vous avez aimé ou pas. » J'ai dit « Bah évidemment !» je me souviens, c'était un premier film, c'était un film qui s'appelait « Les bêtes du Sud sauvage ». C'est pas que j'ai pleuré. Et je me souviens que la lumière s'est rallumée, j'étais en larmes et j'ai regardé toute l'équipe du film et je leur envoyais des pouces comme ça. Je leur envoyais des pouces et des pouces et des pouces. Et j'ai tourné ma tête et il y avait Thierry. Et j'ai dit ah. Et il m'a dit bah, c'est chouette, t'as tout bien compris ce que je t'avais dit. Mais bon, en même temps, voilà, c'était, l'émotion, elle était trop grande.
Elle était vraie.
Ouais.
Le film que vous revoyez sans cesse?
Les films de mes enfants. Je fais plein de films, moi.
J'adore. Super j'ai mal cadré, plein de
j'adore, ouais. Et puis je fais des montages et tout, parce que moi, je me prends pour une grande monteuse. Avec mon téléphone, j'ai pris
des applis du téléphone.
Ouais, je trouve que c'est une génération qui va... Alors, on est souvent en train de dire, ouais, les téléphones, ça, je comprends. Maintenant, ça va être une génération, ils vont avoir tellement de vidéos, de photos d'eux. Enfin, c'est magnifique. Mais là, je fais un truc magnifique que je vous invite à faire aussi.
Ah, mais
c'est que
bien.
Je filme moins mes enfants, je les enregistre à leur insu.
Les notes vocales.
Bah ouais, mais je trouve ça magnifique.
Je suis d'accord, c'est beaucoup plus fort.
Ouais, parce qu'ils savent maintenant quand on les filme, donc ils font leurs petits intéressants. Là, quand on les... Donc, c'est trop beau parce que la voix, c'est magnifique de les écouter. Donc, ouais, on va dire les films de mes enfants.
On est à la radio, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
Ouais, bah oui.
Il n'y a rien de plus fort que la voix et uniquement la voix. Votre comédie romantique préférée?
Alors, Les choses de la vie.
De Claude Sautet.
Je lui, il faut que je parte en vacances avec mon fils.
Après ton fils, il y aura autre chose. Ton père, ton travail, ton copain François, ton île, n'importe quoi, n'importe qui.
Tu n'as rien à me dire?
Je suis fatiguée, Pierre. Fatiguée de t'aimer.
Moi aussi, je suis fatiguée. T'expliquer, parler.
C'est marrant parce que souvent, enfin, on m'avait beaucoup parlé de César et Rosalie, que j'adore. Mais moi, Les choses de la vie, ça m'a beaucoup plus bouleversée.
Oui, parce que c'est, Les choses de la vie, c'est plus vu comme un film dramatique que vraiment la comédie romantique.
Oui, puis je sais pas. Oui, mais en même temps, c'est des personnages qui se ratent comme ça. Et en même temps, je sais pas, moi,
les
ça m'a bouleversée. Ouais, c'est Les choses de la vie. Après, moi, j'adore Pretty Woman, j'adore Coup de foudre à Notting Hill, j'adore... Love Actually. Moi, je suis une romantique. D'ailleurs, je viens de tourner un film hyper romantique
avec
Karim Leclou.
Oh, génial.
Et Louise Bourgoin. C'est le premier film de Guillaume Bureau. Et je sors tout juste de là. Et c'était. C'est bien parce que ça m'a laissé des traces. J'étais hyper romantique, du coup, dans la vie.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Grise, évidemment.
Évidemment.
Bah, évidemment.
Mais pour être Sandy ou Rizzo?
Les deux. Franchement, les deux. Mais c'est magnifique. Je rêvais de... Grise, c'était le film que je regardais avec ma sœur tous les mercredis après-midi. Et je me souviens, on se faisait des coquillettes. Et on les sortait de la casserole et il fallait vite mettre du fromage râpé.
Ah ouais. Oh là là.
C'est une de mes chansons préférées de Grise, en plus. J'adore. J'aimerais vivre là-dedans, ouais.
Le film de votre jeunesse ou un film que vous recommanderiez à un enfant?
E.T., c'est un film que je recommanderais à un enfant parce que ça parle de la différence. Ouais, c'est un film que j'ai hâte de montrer à mes enfants. Les films de Chaplin aussi, j'ai hâte de leur montrer. J'ai envie de leur montrer aussi La Cité de la Peur.
Donc un peu plus âgé que
ouais,
maintenant.
Un peu plus âgé, mais en même temps, j'aime bien, là, je leur apprends le second degré et tout. J'aime bien l'idée que mes enfants, même petits, aient du second degré, qu'ils comprennent.
Vous leur âge?
Ils sont tout petits encore. Le plus grand, il a 4 ans.
Bon, le plus grand, il peut commencer un peu à...
Ouais, non, mais je lui dis. Je dis, t'es trop beau, tu rentres pas chez moi, tu t'en vas, il rigole et tout, j'adore. Ouais.
Une réplique cul dans La Cité de la Peur?
Oh, bah, y en a plein. Ah, je suis content, je suis trop content. Je suis trop content. Odile de Ray, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bienvenue à l'aéroport de Nice. Voilà. J'en ai vraiment
un chewing-gum, Émile.
Voilà.
Et on peut tromper une fois.
Bon, voilà.
Voilà, on a compris. Ouais.
Attention, Émile, derrière vous!
Ça ne prend pas, si. On peut tromper 1000 fois une personne. Mais on ne peut pas tromper. Si. On peut tromper une fois une. Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes.
Vous voulez un chewing-gum?
Oh non, merci.
Ah si, prenez un chewing-gum, Émile.
Vous voulez un whisky?
Oh, juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord?
You who believe, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi.
Alors, on a envie de le revoir. En fait,
évidemment.
Ce soir, vous pouvez revoir La Cité de la Peur. J'espère qu'on vous a donné envie. Alors, ce n'est pas la BO d'un film, mais Leïla Bekti, si je vous fais écouter cette chanson. Est-ce que vous connaissez la chanteuse?
Je ne l'aime pas beaucoup.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on a pas peur.
Magnifique. Duo avec Grand Corps Malade.
Oui.
Comment ça s'est fait?
Ça a été merveilleux. Ça a été, moi, Fabien, je le connais parce qu'on a des très bons amis en commun. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il sait que j'aime beaucoup son travail et son travail de metteur en scène et son travail de compositeur, de chanteur. Et il m'a appelé il y a quelques mois en me disant, écoute, est-ce que ça te dirait, je vais faire une réédition de mon album Mesdames. Je vais faire une réédition et voilà, je voudrais faire un duo avec toi. Je dis, mais n'importe quoi. Et il me dit, écoute, tu peux choisir le sujet, tu peux, et puis si ça te va pas, on va jusqu'au bout et puis on la sort pas. Et puis je me suis dit, si ça peut servir que pour mes proches, pour leur dire à quel point je les aime et pour les remercier, ça vaudra le coup. Et du coup, pendant 2 mois, on s'est appelé tous les jours. Je suis hyper heureuse d'avoir fait ça avec lui parce que c'est, je crois que c'est l'un des mecs les plus droits que j'ai rencontrés dans ce métier.
Et des plus talentueux.
Ouais. Et du coup, ouais, voilà, c'est une chanson qui me
touche. Ouais. Alors, c'était pas la BO d'un film, mais c'était quand même un joli clin d'œil.
Ouais, merci.
Et pour terminer.
Si, c'était la BO des films de mes enfants, on va dire.
Ah, bah oui, voilà, c'est
et
ça.
Et voilà.
On pourra aller voir, j'espère, un jour.
Bien sûr,
pas gagné ça.
Demain, je fais un post avec tous mes enfants.
Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Clap et on vous dira tout sur les films à voir ce week-end au cinéma. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
10h, 11h.
Clap. Laurie Choleva.
Vous êtes bien à l'écoute. Clap, j'ai été surprise moi-même.
Est-ce qu'on a foutu des clés du bungalow pour les rendre des samedis, là.
On va maintenant parler des sorties salles au cinéma. On va retrouver 2 retraités qui passent des vacances mouvementées. Je ne sais pas si elles sont aussi mouvementées que celles de Franck Vallière, mais bon.
C'est très calme.
Bon, non, ça m'a l'air. Vous ne nous racontez pas tout, hein. C'est ça le problème.
Écoutez, au Cap d'Agde, rien à signaler.
On fera la rencontre aussi d'une petite bande redoutable avant de parler d'un grave conflit entre voisins. Et je ne suis pas en conflit avec mes voisins de table, moi, loin de là, Victor Bonnefoy et Franck Vallière, vous l'avez compris, ils sont toujours à mes côtés depuis le début de cette émission.
Et oui, nous sommes toujours là, nous ne partons pas, nous sommes accrochés à la table.
Ça a l'air de vous faire plaisir.
Ben non, mais j'aimerais bien pouvoir enfin partir en vacances, Laurie, tu me l'avais promis.
Non, on reste là tout l'été, on sécurise la rentrée. On tient le studio, comme ça on est sûr d'avoir en septembre.
Rassurez-vous, hein, entre les émissions, ils profitent de l'été, eux aussi. Allez, on commence avec le film qui sent bon l'été, le sable chaud, la mer déchaînée, c'est joyeux. Retraite 2. Thierry Lhermitte et Michel Larocque reprennent leur rôle de couple de retraités dans une suite encore plus folle. Les vacances ne sont pas de tout repos, ils gardent leurs petits-enfants. Ouh là là, ma mère va se reconnaître dans le film. Et partent même avec eux au Portugal, mais une fois sur place, ils ne sont pas au bout de leur surprise.
Coucou maman, je peux te confier les enfants?
Oui.
Ah super, t'as qu'à les emmener avec vous au Portugal, ça leur fera des vacances. Bisous.
Patou va monter ton petit lit.
Et
hop là. Oh non, oh non, oh putain, oh putain.
Je reste pas une seconde de plus dans cette maison.
Je passe les pires vacances de ma vie.
Ton petit lit est monté.
Ah, tes enfants. Figure-toi qu'ils s'amusent.
Ah, ils s'amusent.
Je crois qu'ils se sont rendus compte de quelque chose.
Oh non.
Moi, de toute façon, avec une telle bande originale, j'achète.
Alors, j'espère quand même que chez les Choleva, on ne perd pas autant les enfants que eux vont les perdre dans le film. Parce que
ah, vraiment, j'espère.
Ça doit être leurs petits-enfants. Il faut qu'ils les retrouvent avant que, ah oui, avant que leurs enfants
sinon
arrivent et
crever,
les rejoignent.
Hein.
Bon, il n'y a que des galères au Portugal.
Enfin, moi, déjà, je ne les laisse pas. Hein. Je rigolais.
ce qu'il faut se souvenir, quand même, c'est que le premier avait fait 1 300 000 entrées. Et que le simple plaisir de se retrouver pour tourner le 2 au Portugal a fait que Michel Larocque et Thierry Lhermitte ont re-signé. Ça pousse le bouchon un peu plus loin, ça se permet des formes cinématographiques. Par exemple, il y a un âne qui symbolise le chien de Maria Touprie. Attention, c'est pas pour dire que le film est comparable à Maria Touprie, pas du tout. Hein. Mais en fait, si le capital sympathie que vous avez pour Michel Larocque et Thierry Lhermitte est toujours aussi efficace,
évidemment.
Voilà, vous n'avez pas de raison de vous en passer. Après, il y a carrément un type qui fond en eau à un moment dans le film. C'est de la comédie qui tape à droite, à gauche, il y a du non-sens. Comédie populaire, voilà.
Et ben on en a bien besoin. Alors dans un autre registre, alors là, ça, je pense que ça va être moins populaire. En tout cas, c'est plus sombre. Il y a Asbestas de Rodrigo Sorogoyen.
Exactement ça.
Voilà, c'est un film franco-espagnol qui avait été présenté au Festival de Cannes en mai dernier avec à l'affiche Denis Ménochet et Marina Foïs. Ils jouent un couple de Français qui s'installent dans un petit village et s'occupent de leur ferme avant que leurs voisins les poussent à bout. C'est un thriller qui a même des allures de film d'horreur à certains moments. Et surtout, on est en tension pendant tout le film, Victor Bonnefoy.
Ah mais c'est brillant. Alors déjà c'est brillant parce que Rodrigo Sorogoyen il a le plaisir du temps long à l'écran. Il a le plaisir justement de construire des plans séquences autour justement de tensions entre ces Français qui sont des expats qui sont installés en Espagne pour faire leur petit commerce et des Espagnols qui disent mais attendez, c'est pas parce que vous êtes Français que vous vous installez là que vous avez le droit de décider de ce qui se passe sur la terre où habitent mes ancêtres depuis des années. C'est littéralement un conflit entre voisins, mais un conflit entre voisins qui vire rapidement à la terreur, qui peut virer à l'horreur et qui peut virer à la peur. Et c'est ça qui, moi, me passionne, qui me subjugue quand je regarde le film et qui me bouleverse. C'est à quel point déjà les comédiens se donnent corps et âme, que ce soit Marina Foïs et Denis Ménochet. On en parlait il y a quelques semaines concernant Peter Van Kant, mais Denis Ménochet est brillant comme immense d'habitude. Acteur. Voilà, et ce qu'il fait dans le film, ce parcours de ce type qui essaie juste de se battre pour sa famille, et en même temps, bah, c'est un peu un con, il est un peu bloqué sur ses positions, et il risquera un jour de le payer. C'est un des films qui vous coupera le plus la respiration de tout cet été. Si vous voulez vivre une expérience de cinéma intense, alors pas dans la violence, pas dans tout ça, juste dans le pur plaisir du cinéma qui vous scotche à votre fauteuil et qui vous agrippe et qui ne vous lâche pas, allez voir Asbestas, ça va vous retourner.
Je ne l'ai pas vu, mais je vais y aller.
Ah bah non, oui, il faut le voir. Mais vous avez peut-être vu d'autres films de Rodrigo Sorogoyen. Il avait fait le film Madré, qui était sorti il y a quelques années. Et puis sinon, il avait fait une série télé qui s'appelait Antidisturbios. Bref, plein de choses, plein de talents chez ce monsieur.
Et pour finir, on va parler de La Petite Bande, le nouveau film de Pierre Salvadori. C'est l'histoire d'une bande de jeunes entre 10-12 ans qui s'engagent pour l'écologie en mettant le feu à l'usine de leur ville qui pollue la rivière. Une véritable aventure drôle et engagée qu'ils vont vivre ensemble jusqu'au bout.
Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça d'un coup. Merde, ils vont me tuer.
Au secours.
L'écologie, t'en penses quoi?
Hein? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes?
Si j'aime les poissons.
Ouais, les truites.
Il y a quelqu'un.
On va pas le laisser ici, attaché comme ça.
50 euros chacun pour ma libération.
Je suis tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés.
Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire?
Franck Vallière.
C'est intéressant ce qu'a fait Salvadori sur ce coup-là, parce que d'habitude on est habitué, voilà. Alors, chercher l'erreur.
C'était en liberté son dernier film.
Voilà. Alors, En liberté est très bien parce qu'il dépeint des adultes qui sont restés un peu des enfants. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que les confinements ont eu un effet sur Salvadori incroyable. Il a eu envie déjà de nature avec des enfants et strictement des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des enfants des adultes. C'est-à-dire qu'il leur fait avoir de véritables problématiques d'adultes. Il y a de grands dangers véritablement dans cette petite bande, des dangers que les enfants courent pour essayer de détruire cette usine. Ils partent par exemple avec un canoë chargé de diesel pour faire péter l'usine et vraiment ils ratent de succomber à leurs blessures. Il y a des moments de dramaturgie qui relèvent vraiment du monde adulte mais appliqués au monde des enfants. Donc ça donne un film en plein air avec des enfants et ça c'est rare chez Salvadori. Le seul truc que je regrette un tout petit peu moi, c'est qu'il n'y a pas une minute sans que ce soit véritablement grossier. Et du coup, est-ce que ça aurait pas pu être un peu plus filtré? Bon, ok, mais enfin, j'ai l'impression de passer pour le censeur. Salvadori.
Non, c'est vrai, si ça venant de vous, ça prouve que vraiment, il doit y en avoir trop.
Ah oui, il n'y a pas une minute sans qu'il y ait un putain ou un. Au bout d'un moment, ça sature. Voilà.
Merci à tous les deux et préparez vos sacs à dos puisque la semaine prochaine, Victor et Franck, on parlera de montagne.
Trop bien. D'accord.
Voilà, les films qui se passent à la montagne, au cinéma. Bon bah parfait. En attendant, profitez de votre été si vous avez la chance d'être en vacances à la plage ou à la montagne. Et puis si vous n'êtes pas en vacances, on pense à vous, continuez de nous écouter et allez vous divertir en sortant du bureau. Allez au cinéma. À la semaine prochaine sur Europe 1.